Chapitre 113. Jouna se tient devant la réception comme s'il s'apprêtait à prendre une chambre. Il sait que Rex l'a reconnu, même s'il le traite comme un parfait inconnu. David Jordan a de petites éclaboussures de sang sur le front et il le regarde avec des yeux étrangement embués. Il essaie probablement de déterminer si Jouna va bouleverser ses plans ou s'il va repartir sans broncher. Jouna repousse des mèches de cheveux mouillés de son front et sent l'eau couler dans son dos. Il pose les deux mains sur le comptoir. Dès son arrivée à l'aéroport de Kiruna, il avait reçu l'appel de la psychologue spécialisée en interrogatoire, Janet Fleming. Elle n'avait pas d'adresse à lui donner, mais elle avait confirmé que Sammy et Rex étaient partis pour Kiruna. Puis, elle lui avait rapporté les propos de Nico. Rex essayait de rendre son fils hétéro en l'obligeant à tuer des rennes en cage. Pendant que Jouna louait une voiture et se mettait en route, Anya avait localisé, depuis Stockholm, le seul enclos de chasse avec des rennes sauvages dans la vaste commune rurale de Kiruna. L'hôtel rattaché à l'enclos était loué ce week-end pour une réunion de lancement de projet et elle le suppliait d'attendre les renforts du district de police du Lapland Nord. « Désolé, mais on ne peut pas vous aider », dit David Jordan pour clore la discussion. Jouna sait que l'entraînement au combat rapproché de la plupart des soldats d'élite part du principe que l'adversaire est nettement inférieur tant en matière d'équipement que de formation. C'est, en général, l'impression qu'on a. Leurs techniques sont extrêmement efficaces, mais s'accompagnent souvent d'une certaine arrogance. « Mais vous avez quand même un téléphone portable ?» demande Jouna aimablement. On aurait dû, effectivement, mais la technologie nous a joué des tours. On est complètement isolés jusqu'à demain, quand le chauffeur viendra nous chercher. Je vois, réplique Jouna. Et où est-ce que je pourrais trouver un téléphone, alors? C'est Björkliden, le village le plus proche. Oui, répondit Jay laconiquement. En entrant, Jouna a remarqué les quatre fusils de chasse sur la table devant la cheminée, ce qui signifie qu'il manque au moins une personne. Rex et son fils portent des traces de coups au visage, mais à part ça, ils ne semblent pas blessés. Un écran d'ordinateur se trouve par terre, et le tapis devant les portes fermées de la salle à manger est de travers. Vous vous êtes battu ? Demande Jouna en touchant l'écran du pied. Partez maintenant, dit DJ d'une voix sourde. Quand Jouna est entré, David Jordan avait la main gauche posée sur l'épaule de Sammy. Ensuite, il a déplacé le registre de l'hôtel de la main droite. Deux gestes qui sont en fait totalement inutiles. DJ veut sans doute convaincre Jouna qu'aucun pistolet n'est caché derrière le comptoir au cas où il serait le premier policier à arriver sur les lieux. Jouna sait que l'assassin est ambidextre et il comprend qu'il est tombé au beau milieu d'une prise d'otage dissimulée. L'assassin aura sans hésitation le temps de tuer aussi bien Rex que Sammy avant que Jouna ait pu glisser la main sous sa veste mouillée et extraire son pistolet du holster. Il doit patienter, même si cela entraînera des pertes, et il pense soudain à son lieutenant Rinus Advocat qui citait le Weili Aoji avant la première séance d'entraînement au combat rapproché non conventionnel. L'équilibre tactique de la puissance réside dans les extrêmes du Tao, disait-il sans joie. Si tu détiens une chose, fais comme si elle te manquait. S'il te manque une chose, fais comme si tu la détenais. N'importe quel enfant connaît ce principe, mais il faut une volonté de faire pour l'appliquer dans une situation critique où le geste naturel d'un policier serait de dégainer son arme. Ce jeu extrêmement délicat est pourtant la seule chance qu'a Jouna de sauver les otages. Comme tous les tueurs à la chaîne, David Jordan dispose d'un plan bien élaboré qu'il tient absolument à suivre. S'il pensait que Jouna était un policier ou qu'il était armé, il aurait tiré tout de suite. Ce serait la seule chose rationnelle à faire, même si son plan devait s'en trouver modifié. Mais si Jouna est un simple particulier qui est tombé en panne d'essence, mieux vaut patienter et le laisser partir. TJ a essayé plusieurs fois de lui montrer qu'il n'est pas armé pour l'obliger à agir. Il a probablement déjà commencé à abandonner l'idée que le visiteur est de la police et qu'il porte une arme. « Qu'est-ce que vous faites au juste par ici ?» demande Juna. « On chasse. » Plus il s'attarde sur les lieux, plus il s'approche d'une situation explosive. Mais tant qu'il parvient à donner l'impression de ne pas être armé, il a une petite chance d'éloigner Rex et Sammy du tueur. « Je vais y aller, mais je pense à une chose, » dit Juna avec un sourire. « Il doit bien y avoir un garage avec des scooters de neige ici. » « C'est bien possible, oui, » répond Rex en s'approchant du comptoir. « Alors, je siphonnerai bien quelques litres d'essence, en payant, évidemment, » les assure Juna, et il défait un bouton de sa veste. « Nous n'avons que les clés de l'entrée principale, pas celle du hangar ni de l'annexe, » répond David Jordan d'une voix stressée. « Ah bon, » fait Juna avec un hochement de tête. « Bon bah, merci quand même. » Il tourne le dos à David Jordan, défait le dernier bouton et se dirige vers la sortie. « Vous ne voulez pas attendre que la pluie se calme ?» demande Rex derrière lui. « Si, c'est gentil. » Il se retourne de nouveau et voit que Sammy s'est mis à trembler et que David Jordan ferme les yeux un peu trop longtemps. « Attends, attends. » a-t-il le temps de penser. Le geste de David Jordan est rapide comme l'éclair, et pourtant on a l'impression qu'il bouge son bras dans le fort courant d'une rivière lorsqu'il lève son pistolet et presse la détente. Le percuteur frappe l'amorce et les gaz propulseurs projettent la cartouche à travers le canon. Le sang gicle derrière Rex quand la balle lui traverse l'abdomen. David Jordan a déjà tourné l'arme vers Juna. Il passe de l'autre côté du comptoir sans perdre la ligne de tir une seule seconde. Il a les deux yeux ouverts et surveille toute la pièce pendant qu'il se déplace. L'air confus, Rex recule en titubant, une main posée sur son ventre en sang. « Papa !» crie Sammy. Juna s'oblige à ne pas glisser sa main sous sa veste. David Jordan vise sa poitrine, le doigt posé sur la détente. Il arrive près de Rex, le saisit par les cheveux et le fait tomber à genoux d'un petit coup de pied bien placé derrière la jambe, sans pour autant perdre de vue Juna. « Cette histoire ne vous regarde pas, » lui dit-il. « Allez-vous-en et vous survivrez. » Juna hoche la tête et lève les deux mains devant lui. « Emmenez mon fils loin d'ici, » allait Rex à l'intention de Juna. « Il n'a rien à voir avec tout ça. On va régler cette affaire entre nous. » David Jordan respire profondément, plaque le bout du silencieux contre la tempe de Rex et ferme de nouveau les paupières. Juna tend la main et prend le bras de Sammy. Il l'entraîne vers la sortie, tout doucement. Il passe devant le foyer sombre de la cheminée et la table où sont posés les fusils. David Jordan lève les yeux et les regarde. On dirait qu'il a du mal à rester éveillé, bien que les jointures de la main qui tient le pistolet blanchissent. Juna atteint la porte et appuie prudemment sur la poignée. Les paupières de David Jordan recommencent à se fermer. « Sammy, je t'aime !» lance Rex derrière son fils. David Jordan ouvre subitement les yeux et pointe son arme dans leur direction. Juna tire Sammy en arrière, juste au moment où la balle frappe la vitre à côté d'eux. Ils sortent en titubant sous la pluie et le vent cinglant. Sammy trébuche et tombe sur le dallage. Juna le relève, alors que la porte en verre est repoussée par une rafale tellement forte que la grande vitre se brise. À travers les éclats de verre qui volent, il voit David Jordan courir dans le hall, l'arme au poing. « Il faut qu'on trouve une cachette !» crie Juna en essayant de couvrir le vent, et il parvient à éloigner Sammy de la porte brisée. L'eau se déverse du toit, déborde des gouttières et rejaillit à gros bouillons des grilles d'écoulement. Papa hurle Sammy. Juna le fait passer devant la bordure de pierres arrondies et traverser les buissons. Ils basculent ensemble par-dessus le bord et glissent dans une pente détrempée. De petits cailloux et de la terre dégringolent avec eux dans la descente. Sammy pousse un gémissement lorsqu'ils sont arrêtés par un bosquet de jeunes bouleaux broussailleux. Juna se relève rapidement et éloigne Sammy de l'autel. La pluie tonne au-dessus de leur tête et le ruissellement de l'eau crée des sillons emportant de la terre et des feuilles. Ils se cachent sous le rocher saillant et entendent David Jordan les appeler. « Sammy, crie-t-il en longeant le bord, ton père est en train de mourir, il a besoin de toi. » Le jeune homme respire bien trop vite et essaie de se redresser, mais Juna le tient plaqué au sol. Il voit à ses yeux écarquillés qu'il est en état de choc. « Il faut que je parle à papa. »«
Moins fort, » dit Juna à voix basse. « Il croit qu'il ne compte pas pour moi, mais c'est faux. Il faut que je lui dise, » chuchote-t-il.
Il le sait déjà. La pluie est éclairée par la lumière des fenêtres. Juna voit une silhouette passer rapidement devant un des carreaux. En marchant, DJ fait tomber de petites pierres par-dessus le bord et Sammy tressaute quand elles atterrissent à leurs pieds. Soudain, les pas cessent. David Jordan s'est arrêté. Il se tient absolument immobile et tend l'oreille. Il attend qu'il se manifeste et commence à détaler comme des lapins.